Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à Là-haut sur la colline, y a-t-il un privilège religieux? Car alors que ce soir, en zone rouge, les bars et restaurants, entre autres, fermeront leurs salles, les églises et autres lieux de culte ont obtenu de pouvoir recevoir jusqu'à 25 fidèles. On en discute avec Mgr Pierre Murray, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, qui dénonçait encore récemment la fermeture du gouvernement Legault à l'égard des religions. Mais d'abord, la chef de l'opposition, Dominique Anglade.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
La chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, a demandé ce matin la démission de la ministre des Relations avec les Autochtones. Elle est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a conduit à demander ce qu'on enlève à Sylvie Damour son portefeuille?
Ben, la réalité, c'est que depuis déjà plusieurs mois, le milieu autochtone ne cesse de dire à quel point ils n'ont pas de relation avec la ministre. Ça a été rapporté à plusieurs reprises que, encore une fois, cette fin de semaine, elle disait son rôle, c'est vraiment un rôle d'être de faire des relations publiques. Il y a eu des événements où elle a même qualifié certaines associations de quatrième partie d'opposition dont elle n'avait pas besoin.
Oui, c'était donc, au crédit. Elle a dit ça au crédit.
Oui, c'était au crédit. Ouais. Elle a dit ça au crédit. Elle a dit, bon, alors, les tensions sont palpables et le compte du compte, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du dépôt là, du rapport de la commission bien et ils ont émis un communiqué sur les progrès qui avaient été faits. Alors que c'est une véritable blague, lorsqu'on regarde les 141 recommandations, ils nous disent qu'il y a 50 recommandations qui sont en progrès. Et lorsque l'on regarde le communiqué, ils ont sorti 4 mesures qui étaient en progrès selon eux, dont l'adoption de la motion d'il y a un an, dont une autre adoption des Nations Unies. Alors, beaucoup de paroles, mais aucune action tangible et réelle. Mm-hmm. Je vois pas comment, avec la crédibilité qu'elle a dans le milieu, elle peut poursuivre. Je pense qu'il faut qu'il y ait un leadership qui soit exercé dans ce domaine-là.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère? Par exemple, elle est allée hier à la vigile devant le Parlement pour Joyce Echaquan. Hier aussi, elle a émis un autre, pas un communiqué, mais quand même un message Twitter où elle a tenu à réagir à la situation alarmante qui est survenue à l'hôpital de Joliette, comme elle l'écrit. Est-ce que c'est pas un peu sévère de dire qu'elle s'en est pas émue?
Ben écoutez, il faut parler avec les gens du milieu. Oui. Les gens du milieu, on leur parle régulièrement. Ils n'ont pas d'écoute de la part de la ministre. Ils sentent qu'aucun dossier n'avance. Si vous regardez les recommandations du rapport, il y en avait quand même, il y a 16 recommandations d'un point de vue de la justice. Il n'y en a aucune de ces recommandations. Ils n'ont travaillé sur aucune de ces recommandations-là. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on prend ce sujet-là au sérieux? Et s'il est pris au sérieux, clairement, c'est pas la ministre qui le fait. Depuis l'année dernière, il y a eu des gens qui se sont levés, notamment dans notre formation politique, pour poser des questions. Il n'y a pas de réponse. Alors moi, je vous dirais, si vous parlez avec les gens du milieu, est-ce qu'ils pensent que c'est une partenaire crédible avec laquelle échanger? Je pense pas que vous allez avoir une réponse positive là-dessus.
On dit beaucoup de bien de l'ancien ministre Kelly. Et bon, ils sont députés de père en fils dans cette circonscription, qui lui continue, Greg, à poser des questions sur les Autochtones. Il est donc porte-parole en cette matière, mais vous avez quand même été au pouvoir 15 ans. Puis quand on lit le rapport, en tout cas, j'ai regardé le chapitre 10 là, sur les constats relatifs aux services de santé, aux services sociaux, Il y a vraiment des problèmes graves. Est-ce que M. Kelly avait peut-être bien des contacts au sein des instances autochtones, mais est-ce qu'il a vraiment fait son travail? Est-ce qu'il n'y a pas eu de graves lacunes aussi de la part du gouvernement libéral?
Alors, je pense que quand on lit le rapport, il est évident que tous les gouvernements, il est évident que tout le monde a une part de responsabilité. La situation des communautés autochtones, là, elle ne date pas d'hier, là. Et ça, tout le monde en est conscient. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire que tout a été parfait dans la gestion de ce dossier-là. Ce que je peux dire pour avoir siégé moi-même avec Jeff Kelly, c'est qu'il avait une écoute attentive auprès des communautés, qu'il y a des gestes concrets qui ont été posés pour dénouer des impasses quand c'était autochtone.
Par exemple,
dans des conflits, sur certaines réserves, il a su les éviter, parler. Il y a des barricades où il disait, ben si on va dans cette direction-là, on va retourner dans ce qui s'est passé avec la crise de Oka. Comment on dénoue ça? Comment on va s'asseoir avec les personnes pour essayer d'avoir le dialogue, pour éviter des crises? Souvent en politique, c'est des crises qu'on évite aussi qui montrent qu'il y a de l'action qui a été mise de l'avant. Donc cette relation-là existait et le rapport qui a été déposé présente des pistes de solutions concrètes. Alors maintenant, c'est au gouvernement actuel d'agir sur les propositions qui sont faites. Si on m'avait dit...
Mais il me semble que vous n'avez pas beaucoup d'exemples de décisions concrètes là, qui ont été prises par les gouvernements Charest et Couillard pour aider la vie des Autochtones.
Pour aider la vie des Autochtones, il y a des projets de développement économique. On peut parler, par exemple, du projet Atuyat. C'est un des derniers, là. Le dernier en liste, là, le projet Atuyat, où on voulait justement développer un projet économique qui ferait en sorte que ça profiterait à l'ensemble des Québécois, mais aussi aux nations autochtones. On a voulu pousser de l'avant pas plus tard que la semaine dernière. Pascal Bérubé, du Parti québécois, réclamait justement pour la Côte-Nord qu'on aille de l'avant avec ce projet-là parce que justement, il n'y avait pas de grands projets dans la région. Ça, c'est un exemple concret. Je ne parle, moi, que de projets avec lesquels j'ai travaillé avec Jeff dans les dernières années, mais ça, c'en était un gros, c'en était un où tout le monde était allé chercher l'appui des nations
Ça a niaisé sur plein de négociations. Je pense à l'autoroute 30, par exemple. Il y a eu des négociateurs là, très proches du parti au pouvoir. Pourtant, là, John Parizella, Louis Bernard, pendant des années, ils ont négocié, puis il me semble que ça a abouti très tardivement, là.
Ben, écoutez.
Même ça n'a pas abouti parfois.
La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est il y a un rapport qui a été déposé.
Oui.
Il y a eu 141 recommandations. Est-ce que vous trouvez ça normal que sur les 141 recommandations, il n'y en ait pas une au niveau de la justice quand c'est un des éléments essentiels que les communautés avaient manifesté? On était tous en chambre. Il y a un an exactement, debout, avec les nations autochtones pour dire plus jamais, nous allons nous assurer de mettre le rapport, de toutes les mesures de l'avant, nous allons nous assurer d'avoir un progrès, nous allons nous assurer qu'il y ait des rencontres. Encore une fois, pendant la dernière année, lorsqu'il y a eu des rencontres, les gens ont déploré la non-présence de la ministre. Ils ont déploré le fait que les communications... Alors, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que c'est la bonne personne?
Oui.
Est-ce que c'est la bonne personne? Mais au-delà de ça...
Sur les 141 recommandations ou appels à l'action, comme on les appelle dans le rapport, vous commenceriez par quoi? Parce que c'est beaucoup, 141 aspects... aussi.
Ben oui, bien sûr.
En matière de santé, mettons, le chapitre 10, là, qu'est-ce qu'on fait là, d'abord?
Ben, il y en a plein, mais commencer par me dire... La ministre est au gouvernement, c'est à elle de dire, ben, il y en a 141, voici, je vais le faire sur les deux prochaines années. Je vais commencer par celles-là parce qu'elles sont prioritaires. Je vais vous dire, voici un, deux, trois, lesquelles que j'ai fait cette année sur lesquelles on travaille. Là, tout ce qu'on a présentement, puis tout ce que vous avez également présentement, c'est un rapport qui donne un communiqué qui vous dit, ben, voici quatre affaires sur lesquelles on travaille, dont deux motions qui ont été adoptées. C'est un peu mince.
Puis le rapport est très précis sur certains faits et qui rappellent ce qui s'est passé à Joliette. Là. Hein, on parle, là, à la page 391, des pratiques non éthiques ciblant les femmes et basées sur des préjugés liés aux dépendances telles que des tests de dépistage de drogue effectués sans consentement auprès des femmes autochtones venues accoucher. C'est vraiment précis.
On se demande,
là, un an plus tard, comment ça qu'on n'a rien fait?
Mais c'est bien. Alors, vous posez la question, ben justement. Mais quand on regarde ce qui s'est passé hier, c'était tellement... j'imagine que vous avez vu les images tout comme moi. C'était insupportable.
C'était insupportable. Ah oui.
Et ça te renvoie en plein visage aussi la situation dans laquelle on se trouve au Québec sur cet enjeu-là et la nécessité de véritablement agir. C'est quand la dernière fois qu'on a vu quelque chose d'aussi insupportable dans ce contexte-là où une femme, mère d'enfant, vit ses derniers moments, est obligée de filmer pour montrer ce qui se passe, est obligée de le filmer. Ça montre l'importance. Et à ce moment-là, il faut s'élever puis se dire, on s'est rappelé qu'il y a un an, on avait dit plus jamais, puis depuis un an, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Passons à une vitesse supérieure, assumons un véritable leadership, et c'est ce qu'on demande au gouvernement Legault, et présentement, ce n'est pas ce qui est assis, c'est même pas assumé. Elle n'était pas en chambre aujourd'hui pour répondre aux questions, de toute façon. Ça fait un an.
Comment vous expliquez cette absence-là? Est-ce que ça peut être le hasard des rotations, ou est-ce qu'il aurait fallu...
Je soumets la question. J'ai pas la réponse, mais elle n'était pas en chambre aujourd'hui, alors que c'était l'anniversaire de ce dépôt qui, quand même, tout le monde, à l'unanimité, s'est levé en chambre. Tous les partis, toute allégeance confondue, on s'est levé puis on a dit, ben, il faut qu'on agisse, il faut qu'on prenne des mesures. Et pendant l'année, il y a eu beaucoup, beaucoup de rappels sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui avançait, que la ministre était absente, que les gens se plaignaient, que les gens voulaient avoir des discussions. Quand il est rendu à dire que tes partenaires sont des partis d'opposition puis que tu n'en as pas besoin, ben là, si tu dis ça de tes partenaires, voilà.
Merci beaucoup, Dominique Anglade, pour cette conversation.
C'est moi qui vous remercie.
C'était la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique.
La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Après avoir dénoncé une injustice à l'endroit des pratiquants, la table interreligieuse de concertation s'est entendue avec le gouvernement dans le cadre des règles pour prévenir la propagation de la COVID-19. Et au bout du fil pour en discuter, Pierre Morey, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous en êtes venu à une sorte de compromis, là. Il va pouvoir y avoir des célébrations à l'extérieur des zones rouges, évidemment.
Ben, à l'extérieur des zones rouges et à l'intérieur des zones rouges. Ça, c'est quand même important. C'est qu'on considérait que d'être classé dans toutes sortes d'amalgames, hein, ça a été reporté un peu à gauche et à droite, là, soit avec des bars ou avec d'autres types d'établissements du même genre, ça ne correspondait pas à la réalité qui se passe dans les lieux de culte. On a fait valoir nos points de vue au gouvernement qui l'a bien saisi, alors ce qui fait qu'à l'extérieur des zones rouges, donc pour les zones vertes, jaunes et oranges, nous sommes assimilés à des salles de spectacle. Donc, la capacité maximale est de 250 ou moins, parce que parfois, nos édifices ne permettent pas de se rendre à ce nombre-là en respectant la distance physique entre les gens.
C'est ça, si l'église est plus petite, et il faut baisser le nombre, là, un peu comme les salles de spectacle, comme vous dites.
Oui, tout à fait. Mais parfois, ça peut être une église de 800 places, mais à cause de la configuration, on n'est pas capable de se rendre plus que 180.
Ah bon? Avez-vous un exemple montréalais? Ou?
Ben, moi, je donne un coup de main de temps en temps à l'église de Sainte-Dorothée, dans Laval-Ouest.
Oui.
Et il y a facilement 800 ou 900 places dans cette église-là, puis le maximum est autour de 180 places. Là. Mm-hmm. Parce que c'est un banc sur deux, hein, et on bloque l'accès avec une corde. Puis ensuite, ben, s'il y a quelqu'un qui est assis là, il peut pas y avoir une autre famille ou quelqu'un d'étranger assis tout à côté. Donc, il faut respecter tout ça. Mm-hmm. Ce qui fait que ça prend vraiment un très, très grand édifice pour qu'on se rende à 250. Je pense à l'Oratoire, à la Basilique Notre-Dame, la cathédrale, Saint-Jean-Baptiste, les églises du plateau Mont-Royal qui sont immenses, mais pour beaucoup d'églises, on se rend pas à 250.
Oui, OK.
Donc, on fait nos devoirs très sérieusement. L'autre annonce qu'a faite le premier ministre lundi, c'est que dans les zones rouges, il sera possible de continuer à accueillir les fidèles.
Mais 25 personnes seulement, hein, c'est ça? C'est
25.
Oui.
C'est ça. Et l'autre chose, c'est que pendant la première vague, alors que tout était fermé, il était possible de faire des funérailles dans les salons funéraires, mm-hmm. mais pas dans les églises. Alors, pendant cette étape-ci, dans la zone rouge, une famille qui souhaite vivre les derniers adieux de son défunt ou de sa défunte pourra se rendre à l'église. Et que ce soit au salon funéraire ou dans une église, la limite de personnes qui pourront participer à l'événement est de 25. Mm-hmm. Ça fait que tout le monde est traité de la même façon. Les croyants n'ont jamais voulu de privilèges, ils ont juste voulu être traités raisonnablement de la même façon que tout le monde.
Dans la table interreligieuse de concertation, ou plutôt à cette table-là, il y a plusieurs religions. Est-ce que le défi se pose de la même façon? Moi, j'ai déjà parlé à Sainte-Guillet, à ce micro-là, qui est justement le représentant des communautés musulmanes. Mais est-ce que ça se présente de la même façon ou il y a des défis particuliers pour chaque religion?
Chaque religion a des défis. Par exemple, dans les communautés juives ultra-orthodoxes et dans les communautés, beaucoup de communautés musulmanes, c'est l'exiguïté des lieux. Alors, plusieurs comme nous ne pouvaient pas se rendre à 250. Alors, on imagine qu'avec une limite à 25, il y a quand même beaucoup de gens qui ne pourront pas participer au service. Alors, c'est ce genre de choses-là, essentiellement, que l'on rencontre. Mm-hmm. On sait, par exemple, que certaines communautés, la pratique pour les croyants, elle est très, très, très importante. Mm-hmm. Et il n'y a pas beaucoup d'aménagements qui permettent une certaine souplesse, alors que pour d'autres, on arrive à une certaine souplesse.
Mm-hmm. On pourrait dire, de façon presque narquoise, que la chute de la pratique religieuse dans l'Église catholique au Québec aide au respect des règles de la COVID. Est-ce que c'est le cas?
Ben, de fait, hein, on a des bâtiments, des édifices sacrés, des églises qui ont été construits à une époque où il y avait peut-être 80 ou 90 % de pratiques religieuses. Maintenant, on est beaucoup moins que ça. Puis on a encore, pour la plupart, les mêmes temples. Alors, c'est sûr que là, on a une marge de manœuvre mm-hmm. que d'autres n'ont pas. Parce que quand les communautés juives et musulmanes ont voulu s'établir, ben déjà, le paysage était construit, il y a les règles d'urbanisme, etc. Alors, c'est pas du tout la même réalité, là.
Mm-hmm. Il pourrait y avoir des temples qui soient transférés d'une religion à l'autre. Est-ce que c'est le cas? Je pense à quel point on démolit des églises actuellement au Québec. Est-ce que ça arrive?
Écoutez, vous savez, quand on parle, par exemple, de conversion d'église, on pense toujours à des espèces de complexes de condos. Or, c'est l'exception. Hein. C'est l'exception parce que les coûts de conversion d'un édifice comme ça en unité de logement est énorme et les frais d'entretien sont énormes. Les assurances coûtent la peau des fesses. Alors, c'est très exceptionnel. Ce qui arrive le plus souvent, dans la vaste majorité des cas, c'est qu'une église catholique devient une église protestante, devient un autre type de temple. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'il y a de plus commun. Ça se fait depuis des années, particulièrement dans la région de Montréal.
Oui, mais il y a quand même énormément de démolitions actuellement. Là, je change un peu de sujet. Là, je glisse sur un sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup, c'est le patrimoine. Et on a eu l'impression, dans les dernières années, puis dans les derniers mois même, que c'était pas une préoccupation de l'Assemblée des évêques ou de l'archevêché ou des archevêchés. Je pense, par exemple, à la réaction du cardinal Lacroix quand la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a classé l'église Saint-Sacrement pour empêcher sa démolition. Je me surprends toujours, il semble pas y avoir une sensibilité au patrimoine dans les autorités religieuses, dans le clergé.
Ben écoutez, là, je vous contredis à 100%, puisque ça fait des années que sans subvention, les prêtres impliqués en paroisse, les équipes pastorales, les membres des conseils de fabrique font des miracles pour tenir à bout de bras l'entretien. Faute de ressources, bien sûr, il y a une carence d'entretien, mais c'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt. Les gens sont attachés à leur église. Les évêques souhaitent conserver ces trésors d'architecture et d'histoire. C'est l'intérêt, là, il est là depuis toujours. Ça serait tellement plus simple de dire on fait un coup de crayon puis on repart à neuf dans des plus petits locaux mieux adaptés à nos besoins. Mais c'est pas ça qui se passe.
Réaction du cardinal Lacroix au classement de l'église Saint-Sacrement, ça a été de dire c'est une vieille église qui tombe en morceaux, c'est dangereux, on comprend pas, on ne s'explique pas la décision de la ministre.
Ben, c'est-à-dire que là, je peux pas entrer dans le détail parce que je suis pas au fait. Là, vous me prenez un peu.
Oui, pardon.
C'est pas le sujet de notre entrevue. Mais ce qui était surtout dénoncé, c'est que cette décision-là est venue sans aucun dialogue. Et là, on revient à notre point de départ, c'est-à-dire que ce que l'on demande aux autorités, c'est d'être des partenaires d'un dialogue et de pas se faire imposer d'en haut des choses. On a souffert de ça dans la pandémie. La situation que vous évoquez à Québec, c'est exactement la même problématique. Mm-hmm. Quelqu'un, quelque part, décide quelque chose sans en parler à personne. Mm-hmm. Et ça crée de l'incompréhension, évidemment, puis des frustrations.
Oui, dans votre premier communiqué, vous étiez vraiment vindicatif à l'égard du gouvernement. Vous disiez, par exemple, qu'on ne répondait pas à vos lettres, vos courriels, les téléphones n'avaient pas de suite. Pensez-vous qu'il y a un lien entre cette indifférence-là et le parti pris du gouvernement pour la laïcité?
Écoutez, il faudrait demander ça au gouvernement. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on constate que nos efforts d'entrer en dialogue ont été constants depuis le début et que la réponse du gouvernement a été très lente. Hein. J'ai fait l'inventaire. Là, mes premières communications avec le gouvernement pour tâcher d'établir des ponts de communication, des canaux de communication, datent du 3 mars dernier.
Ah
dès
bon?
Avant,
okay.
Dès avant la pandémie, alors on la voyait venir, hein. Et puis nous on disait, ben écoutez, nous on rassemble des gens tous les dimanches et parfois plus. Ce serait peut-être bon qu'on se parle pour qu'on se prépare à ça.
Oui.
Et ça a été ignoré. Ce n'est qu'à partir de la fin mai. Un fonctionnaire nous a été attitré que là, les choses ont commencé à bouger, mais ce n'était pas de discuter avec les gens qui prennent des décisions.
Donc là, ça s'est amélioré?
Depuis cette semaine, ça s'est amélioré puisque nous avons eu mardi matin une rencontre avec le docteur Arruda, mm-hmm. Une rencontre que nous avions demandé dès le 31 août dernier pour justement discuter avec les autorités de ce qui allait se passer dans une deuxième vague, pour offrir notre collaboration et pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passait dans les lieux cultes, parce qu'on, étant donné qu'on n'est jamais classé dans la bonne catégorie, on comprend bien qu'il ne s'agisse pas qu'est-ce qui se passe dans les lieux de culte. Alors là, depuis lundi, enfin, on est classé dans quelque chose qui est plus acceptable, plus raisonnable, plus sensé, et on discute avec des gens qui sont dans les postes de décision. Ça, c'est parfait. Si ça avait eu lieu il y a des mois,
ouais.
On n'en serait pas là aujourd'hui.
En terminant, qu'est-ce que vous pensez des religieux aux États-Unis, surtout une certaine droite religieuse, je dirais, qui, au début de la pandémie, a dit « on est protégé par le sang du Christ, on est, il y avait un aspect magie à la religion et on a l'impression que ça a préparé une certaine indifférence de croyants aux États-Unis à l'égard des règles sanitaires. » Est-ce que la religion peut être une espèce d'opium dangereux dans cette pandémie-là?
Écoutez, la réalité du monde religieux aux États-Unis, elle est hyper complexe, hyper variée, hyper diversifiée. Il y a de quoi y perdre le latin qu'on n'a peut-être même jamais appris. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la perspective catholique que je connais bien,
oui.
C'est que Dieu ne vient pas jouer constamment dans les lois de la nature.
Oui.
La nature a ses lois, on doit se déployer tous les efforts pour tâcher de la connaître. Par exemple, c'est un prêtre qui a mis sur la table la théorie du Big Bang.
Oui, oui.
C'est un prêtre. Et bien sûr, on peut assimiler la religion à une pensée magique, mais oui. ça reste une pensée magique. Les faits sont là. Vous savez, il y a une petite blague, quelqu'un qui est en détresse, il y a une inondation, puis là, il est pris sur son toit, puis là, il dit « Dieu va me sauver ». Là, il y a une chaloupe qui passe, puis le type dit « Non, non, laissez faire, Dieu va me sauver. » Puis ensuite, il y a les pompiers qui passent, puis ensuite, l'hélicoptère qui vient le chercher, « Dieu va me sauver. » Finalement, il meurt noyé, il arrive devant Dieu, et Dieu, il dit à Dieu, « Ben, j'ai appelé à l'aide, t'as rien fait. » Il dit « Attends, là, je t'ai envoyé une chaloupe, les pompiers, puis l'hélicoptère. » Ah, voyez-vous, aide-toi et le ciel t'aidera d'une certaine façon. Alors, je ne veux pas condamner quoi que ce soit, mais quelque part, il faut apporter un peu de raisonnabilité dans la façon d'apprécier à la fois la religion, mais après, les réalités terrestres de scientifiques et factuelles.
Mm-hmm. Donc, c'est ce que vous répondriez à ces gens qui finalement disent que Dieu les protège.
Je vais pas leur répondre, là.
Vous êtes sur une table interreligieuse de concentration, il y a peut-être de ces discussions-là, non?
Non, ça je peux vous dire là, que...
Il n'y a pas de débat sur le fond. Il n'y a pas de débat sur le fond.
Il n'y a personne qui nie la pandémie, il n'y a personne qui nie qu'il faut faire des choses autres que prier pour lutter contre la pandémie. Et au Québec, là, il y a les gens qui sont autour de la table, puis ensuite, on a des cercles plus élargis, là.
Mm-hmm.
Malheureusement, on peut pas être 150 autour d'une table comme ça, mais je n'ai encore au Québec rencontré aucun groupe religieux qui soit dans le négationnisme, le complotisme ou des ismes de cette sorte-là. Ça, j'ai pas vu ça parmi les leaders. Mm-hmm. Ils en fréquentent énormément. J'ai pas vu ça au Québec.
Ben, c'est rassurant. Merci beaucoup, Pierre Murray.
Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir.
Pierre Murray est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Cube Radio.